David Abiker.
Les voix de l'économie. Charles, vous recevez le président Monde d'Adecco.
Bonjour Christophe Catoire.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Une étude justement d'Adecco la semaine dernière s'est intéressée au rapport entre l'intelligence artificielle et les entreprises. Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors c'est une étude qui, une fois n'est pas coutume, donne la parole à 2000 patrons d'entreprises internationales, plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Et en fait, on apprend quelques éléments, pour certains détonnants. En tout premier lieu, ces patrons d'entreprises conscients de la rupture qu'apporte l'intelligence artificielle donnent une priorité à un recrutement externe de candidats équipés pour l'intelligence artificielle plutôt que de former leurs troupes. Plus de deux tiers des patrons donnent une priorité à l'externe, ce qui est un message qui peut, sur le long terme, être dramatique puisque ça peut créer des goulets d'étranglement dans le recrutement à l'externe alors même que les collaborateurs de l'entreprise peuvent être préparés pour cette révolution.
C'est une forme de paradoxe finalement que la plupart ne veulent pas engagés de formation alors que la plupart sont conscients de son importance. Comment on explique ce paradoxe ?
Alors, il y a une forme de maturité, puisqu'une deuxième réponse à cette étude dit que 57% de ces patrons d'entreprise ne font pour l'instant pas confiance à leur comité de direction pour saisir les opportunités de l'intelligence artificielle. Pour le lire entre les lignes, ont du mal à décoder comment s'approprier cette intelligence artificielle et font confiance à des expertises externes pour les guider dans leur transformation.
Mais c'est réellement possible de pouvoir s'adapter quand on ne fait confiance qu'à l'externe ?
La réponse est non. La connaissance intime de son secteur d'activité, de son industrie, si elle utilise l'intelligence artificielle ou la technologie de manière générale comme un support, on peut avoir une performance importante parce qu'on s'adapte en fait à son environnement industriel. Quand vous avez une pure expertise et qu'elle n'est pas connectée à son environnement, ça crée des experts, ça crée des concepts, mais ça crée pas toujours de valeur au sein de l'entreprise.
C'est une révolution, l'intelligence artificielle, qui va finalement trop vite. Les grandes entreprises sont-elles plus touchées que les petites ?
En tout premier lieu, c'est une révolution et dans le monde de l'emploi, on voit qu'elle interroge énormément sur le niveau d'employabilité des individus. Deuxième élément, comme toute révolution, on peut se souvenir d'Internet, la vitesse est extrêmement importante et celles et ceux qui saisissent l'opportunité au début de la courbe d'apprentissage créent des avantages concurrentiels. Troisièmement, le dirigeant est central parce qu'il doit guider son entreprise vers cette transformation en respectant les codes historiques, mais en sachant s'approprier cette technologie, encore une fois, comme un support et pas comme un principal.
La question qui se pose aussi, c'est de savoir à quel stade de cette révolution on en est. On en est au début, aux prémices ?
Alors, en fait, la réalité, c'est qu'elle a commencé il y a déjà quelques années, puisqu'on parle de data depuis de nombreuses années. Dans l'emploi, on a vu une forme de maturité sur des profils de data analyst, data scientist. Et finalement, tout a commencé par cette collecte de data et cette utilisation des données, pour utiliser un terme français. On voit que maintenant, on cherche à reproduire l'intelligence humaine, cognitive, de manière artificielle. Donc on est dans un scénario plus avancé. Donc en fait, on est déjà bien avancé dans cette transformation, dans cette rupture. Il est vrai que là, on passe du concept à la pratique. Et le sujet, c'est comment utiliser des use cases, en fait, dans son entreprise, qui soient concrets, tangibles, et qui sortent, en fait, de la conceptualisation de l'intelligence artificielle. C'est le challenge actuel. Et celles et ceux qui s'en préoccupent et qui trouvent ces clés-là, créer des avantages concurrentiels très importants sur leur marché.
Et pour les entreprises qui ont entamé une partie de cette révolution, est-ce qu'il y a déjà l'idée de poser un cadre éthique ? Avec quelles frontières on utilise l'intelligence artificielle ?
Alors c'est au centre. Et on voit d'ailleurs que la dimension culturelle joue beaucoup. Les premiers à se préoccuper de l'éthique de cette intelligence artificielle, ce sont les Européens, qui ont déjà construit les premières normes au niveau mondial. On ne va pas trouver ça dans le monde anglo-saxon qui va s'approprier la transformation, cette rupture, cette innovation, avant de penser à le fait de la normer de façon à éviter les extrêmes. Donc c'est toujours un juste équilibre entre le risque et l'usage. On voit que cette dimension, et pour vous le dire, dans le monde du recrutement, c'est essentiel. Ce côté normatif, il doit être pouvoir mis en œuvre maintenant pour éviter en fait une forme de discrimination si elle n'était pas bien opérée dans un cadre bien établi.
L'autre aspect qui est évoqué, qui est un petit peu lié, c'est celui de la digitalisation, de la numérisation, on dirait plutôt en bon français. Il y a encore du retard dans l'entreprise française ?
Alors l'entreprise française, dans cette étude, 11% des dirigeants considèrent qu'ils ont fait des avancées significatives en termes de digital et de données ces dernières années. C'est 9% en France. Donc on peut pas dire qu'il y ait un écart majeur. Probablement que le sujet de l'appropriation et le fait de faire naître des leaders locaux et pas simplement des leaders mondiaux est un des sujets. Et en cela, la France a quand même montré la voie en ayant cette notion de Startup Nation à un moment donné, en regroupant l'ensemble des initiatives d'entreprises et de start-up dans des communautés d'entrepreneurs. Donc la France n'est pas nécessairement mal équipée. Et deuxièmement, la France a une culture mathématique et scientifique qui est un atout. Il faut savoir par contre retenir ses talents en France.
Christophe Cator, le président Monde d'Adecco dans les Voies de l'économie. Comment se porte le marché du travail en ce début d'année?
Alors le marché de manière générale est assez résilient. Ça reste une surprise puisqu'on voit quand même que l'économie, même si les États-Unis ont rehaussé leurs prévisions de croissance, en Europe, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit ces derniers trimestres. Néanmoins, l'emploi reste proche de ses plus hauts. Le nombre de personnes actives à l'emploi a rarement été aussi important.
Et avec des secteurs plus porteurs que d'autres?
Tout à fait. Alors, on voit, c'est derrière la moyenne se cachent quand même des réalités très différentes. On a vu une décrue dans la dimension de la technologie, probablement par le fait d'investissements massifs sur l'après-Covid. On voit que les industries dites de consommation sont à la peine, les métiers du commerce. Mmh. Et à l'inverse, on va trouver des métiers qualifiés, des métiers scientifiques, les métiers y compris de la construction, l'immobilier, on en parlait tout à l'heure, commence juste à retrouver quelques couleurs. On est relativement en avance de phase, mais ces métiers-là tirent l'emploi et l'industrie n'est pas en reste. On voit qu'elle est résistante, probablement aussi parce que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'il est difficile d'acquérir un human capital, comme on le dit, donc
un
capital humain, et que ce capital humain, ben, il faut pouvoir le préserver sur le long terme et éviter de faire des hauts et des bas dans la gestion de son capital humain.
On en revient à la problématique des difficultés de recrutement. Est-ce qu'elles sont toujours présentes?
Elles sont toujours massives, et pour faire le lien avec l'intelligence artificielle, on peut considérer que si l'effort de formation ne se fait pas sur celles et ceux qui sont en emploi dans les entreprises, d'une part, et là c'est la responsabilité des chefs d'entreprise, et sur celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi, donc autant les personnes éloignées de l'emploi que les réfugiés par exemple, qui sont des personnes en recherche d'emploi et pour lesquelles on peut trouver des compétences à condition de les apporter, ces deux notions de formation sont centrales aujourd'hui pour éviter la déconnexion. Il y a un problème de quantité, de main-d'œuvre, mais il peut y avoir aussi un problème de qualité de compétences.
Les coupes budgétaires, hein, plus d'1 milliard d'euros pour le ministère du Travail dans le cadre de ce plan d'économie de 10 milliards, cela peut nuire au recrutement en France?
En fait, le sujet doit être majoritairement entre les mains des entreprises. L'investissement dans le capital humain, bien sûr, on peut attendre de la force publique qu'elle apporte son concours, un accompagnement. En France, elle le fait beaucoup plus que dans beaucoup d'autres pays. Le sujet majeur, c'est que l'entreprise se rende compte qu'au-delà de l'investissement technologique, l'investissement sur les compétences est de son ressort, et que ça s'appelle un investissement, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement en retiré. Et à nouveau, plutôt que d'aller chercher des compétences à l'externe, il est probablement essentiel d'avoir cette notion de s'occuper de celles et ceux qui sont déjà dans l'entreprise, premièrement. Mmh. Et deuxième élément, il y a des co dans son rôle, a probablement un rôle de partenariat important, de s'occuper de celles et ceux qui ont la motivation pour travailler, mais pas toujours encore les compétences. Et là, on en revient à la formation de celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi en leur apportant cette employabilité.
Justement, pour ceux qui sont en formation, qui vont bientôt travailler, peut-être les plus jeunes qui vous écoutent ce matin, quels sont les métiers d'avenir?
Alors ça avance, ça va tellement vite que j'ai envie de dire en premier lieu.
C'est pour ça qu'on a besoin de vous ce matin.
En premier lieu, ce qui est important, c'est de suivre aussi sa propre motivation, c'est-à-dire de s'orienter là où on a du plaisir. Et c'est important, on perce quand on a un plaisir contagieux. Le deuxième élément, c'est sûr que quand on regarde les métiers, il y a des métiers qui ne disparaîtront pas. Ils sont dans la vie quotidienne, ils ne s'exportent pas. Mmh. Donc ça, c'est un premier critère.
Et il y en a d'autres qui n'existent pas encore.
Et il y en a qui n'existent pas encore. Se doter du matériel dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire savoir faire usage des nouvelles technologies, par exemple, c'est une compétence transverse qui peut préparer à de très nombreux métiers. Et souvent, on se cherche, l'intérim d'ailleurs a aussi cette vertu, c'est d'essayer différents environnements et de comprendre dans quel type de culture entreprise et dans quel type de métier on a l'impression de se réaliser. Le meilleur conseil, c'est de savoir faire ses expériences avant de choisir définitivement.
En une minute, l'année 2024 est une année d'élection. Est-ce que cela peut avoir un impact sur le recrutement, je pense aux États-Unis?
Alors, les élections ont souvent un impact sur l'emploi. Beaucoup de projets se mettent à l'arrêt, notamment quand ils sont portés par la force publique. Donc ça, c'est un risque. A contrario, quand vous avez une élection, vous avez aussi un gouvernement qui va essayer de démontrer les bénéfices de son mandat. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le cadre de l'accompagnement de la transformation du pays sur les énergies propres, sur l'intelligence artificielle. Donc ces programmes à l'échelle portent l'emploi. Donc j'ai envie de dire qu'en ce moment, on voit les effets combinés. Il y a une résilience de l'emploi aussi aux États-Unis qui est très très importante. On peut penser qu'il n'y aura pas un impact majeur sur l'emploi aux US.
Christophe Catoire, le président Monde d'Adecco, dans les Voix de l'économie ce matin. Merci d'être venu dans le studio de Radio Classique.
Merci à vous deux, Charles.